Spotkania europejskie.
Rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavro dromitis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bonsoir et bienvenue au Carrefour de l'Europe. Le premier en a marre de cette Europe-là. Le second s'interroge. Pourquoi la lucidité habite-t-elle à l'étranger, sous-entendu partout sauf en France? Bonjour Guillaume Duval.
Bonjour.
Vous êtes le rédacteur en chef du mensuel Alternative Économique et l'auteur de Marre de cette Europe-là, moi aussi, paru aux éditions textuelles. Bonjour Nicolas Bouzou.
Bonjour.
Vous êtes économiste, directeur d'Asterès. Asterès, vraiment en deux mots.
Oh ben c'est un cabinet de conseil, tout simplement.
Ah bah voilà.
J'ai travaillé des économistes.
Bah voilà, c'est très simple, c'est très clair. Et l'auteur de Pourquoi la lucidité habite à l'étranger chez Jean-Claude Lattès. Guillaume Duval, est-ce que vous diriez, vous aussi, a priori, que la lucidité habite à l'étranger?
Non, je crois qu'il y a beaucoup de choses à apprendre et d'intéressant qui se passent à l'étranger, chez tous nos voisins, pas forcément la même chose, mais je pense qu'il y a une certaine habitude aussi de s'auto-flageller qui est un peu excessive, surtout sur les questions européennes. Je pense que la France a plutôt bien résisté dans la crise et a plutôt sauvé l'euro jusqu'ici. Et il n'y a pas de raison de s'auto-flageller autant qu'on ne le fait en généralement, mais je sais que Nicolas est plus nuancé sur ces questions-là.
Et vous, Nicolas Bouzou, vous en avez marre, vous aussi, de cette Europe-là?
En tout cas, il y a des dysfonctionnements complètement évidents dans l'Europe aujourd'hui. Et d'ailleurs, je crois au fond que le grand débat, me semble-t-il, c'est est-ce qu'on veut améliorer l'Europe ou est-ce qu'on veut sortir de l'Europe? Et je pense qu'il est beaucoup plus simple d'améliorer le fonctionnement à la fois de l'Union européenne, mais peut-être surtout de la zone euro, qui à mon avis sont deux sujets qu'il faut distinguer. Mais oui, bien évidemment, aujourd'hui, on fait face à d'énormes dysfonctionnements à l'intérieur de l'Europe et de la zone euro. Il faut absolument les corriger. Mais en même temps, c'est un agenda politique que je trouve absolument exaltant.
Faut-il changer l'Europe? Où et faut-il aussi changer la France? Nous allons débattre sous le regard du directeur de l'Institut Jacques Delors. Bonjour Yves Bertoncini.
Bonjour.
Alors l'Institut Jacques Delors, on a abandonné notre Europe. Avant c'était notre Europe Jacques Delors, maintenant
c'est... On veut rendre hommage clairement à notre président fondateur Jacques Delors.
Et sous celui de Stéphane De Vries, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste néerlandais et le correspondant à Paris de RTL Pays-Bas et un observateur attentif et parfois corrosif de la société française. Vous êtes d'accord?
Oui, tout à fait.
On va l'entendre. Changer, bien sûr, mais changer quoi en commençant par où et au bout du compte pour quel changement? Il est plus simple de poser la question que d'obtenir une réponse cohérente. Juliette Sauce a promené son micro dans les rues de Paris.
Il faudrait peut-être penser d'abord à ce que la France réussisse à gérer ses propres problèmes. Il faut que d'abord on se sente nous-mêmes concernés avant que l'enjeu devienne européen.
À mon avis, on ne peut pas complètement dissocier l'idée d'avancer d'abord dans la communauté ou d'abord dans l'individualité. Je pense qu'il faut chercher à avancer dans l'individualité vers la communauté si on veut que ce projet marche.
Je pense qu'il faut vraiment créer aussi un sentiment, et ça doit partir de chaque pays, donc une mentalité à changer, peut-être même au niveau scolaire, dans les manuels, etc.
Le système européen politique tel qu'il est actuellement est assez opaque. Les gens ne s'y retrouvent pas du tout entre ce qui est le Parlement européen, la Commission européenne, les différents présidents. Je pense que là, il y aurait un travail à faire entre le national et le niveau européen.
Quand je vois que là, il y a certains partis politiques qui veulent en sortir, ça me fait un peu peur parce que je me dis que c'est encore une des seules forces qu'on puisse avoir, c'est d'être dans l'Europe et que là, génération qui sont jeunes veulent adhérer à des partis qui veulent rejeter l'Europe, je trouve ça un petit peu dangereux en fait.
Il faudrait changer le système dans lequel la France et l'Europe existent. L'euro, qui est une monnaie qui n'a plus aucun avenir dans le système financier actuel. On a passé notre temps à renflouer des banques et à imposer l'austérité au peuple européen. Aujourd'hui, le cas de la Grèce fait qu'on ne peut plus reculer en fait devant le fait que le système lui-même est le problème.
Guillaume Duval, le système lui-même est-il le problème? Faut-il jeter le bébé avec l'eau du bain?
Il y a deux parties dans votre question. Oui, le système lui-même est le problème. Je pense que le gros problème, c'est que depuis le départ, on a construit l'Europe comme un marché, parce qu'on voulait pas faire de politique ensemble, c'était trop compliqué au départ, avec l'idée, en faisant des affaires ensemble, on va finir par pouvoir faire de la politique ensemble. Le problème, c'est que en construisant l'Europe comme un marché, on l'a construit comme une Europe de la concurrence de tous contre tous, en particulier de la concurrence sociale et de la concurrence fiscale, et ça a plutôt aggravé les tensions, aggravé les divergences, au lieu d'aider à construire une Europe plus politique, et c'est la difficulté dans laquelle on est toujours aujourd'hui.
On va évidemment y revenir. Nicolas Bouzou, une des interlocuteurs interlocutrice de Juliette Sauce disait, faudrait peut-être penser à ce que la France gère ses propres problèmes. Lesquels vous viennent tout de suite à l'esprit, Nicolas Bouzou?
Ah bah, le marché du travail, typiquement, qui est aujourd'hui le plus gros problème pour la France. Mais vous savez, je pense qu'il ne faut pas opposer résolution des problèmes européens et résolution des problèmes français. Je crois que les deux vont complètement ensemble et sont très complémentaires. Et d'ailleurs, si j'avais envie de résumer les choses, je dirais, grosso modo, hein, pardonnez-moi de ne pas entrer dans les détails à ce stade, mais la France aujourd'hui souffre d'un problème d'offre, de compétitivité, de dysfonctionnement de son marché du travail. Donc ça nécessite un certain type de politique. Et l'Europe, et en particulier la zone euro, souffre plutôt d'un problème de demande, qui nécessiterait une politique plutôt keynésienne. Donc vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'idéologie, en tout cas dans mon esprit, là-dedans. Je pense qu'il faut donner les moyens à l'Europe de mener cette politique un peu plus keynésienne. Et puis il faut que la France ouvre les yeux pour mener une politique qui soit un peu plus tournée vers l'offre. Alors elle commence à l'être, mais évidemment de façon insuffisante.
Nicolas Bouzou, votre livre est un voyage en Europe, presque un tour complet de notre continent. Alors je ne sais pas si vous aviez un a priori en entamant cette balade, mais à l'évidence vous en revenez pour le moins retourné, voire déprimé. En un mot, la situation est partout plus encourageante qu'en France. Alors on peut le comprendre pour l'Allemagne qui va plutôt bien avec un chômage faible, mais le Portugal et même la Grèce vont mieux à vos yeux?
Non mais si vous voulez, ce qui fait l'exception française, c'est le fait qu'on ne veut pas régler les problèmes. C'est ça ce que je trouve tout à fait frappant. C'est-à-dire que des problèmes, vous en avez dans tous les pays. En Angleterre, vous avez des gros problèmes de pauvreté. En Allemagne, vous avez des problèmes de démographie. Alors, je ne vais pas revenir sur les problèmes grecs, portugais, etc. Donc vous avez des pays qui sont dans des situations extrêmement compliquées. Et c'est en cela, d'ailleurs, qu'il ne faut pas penser que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. J'ai rencontré le Danemark a des problèmes, on en a évidemment parlé ces derniers jours, a des problèmes d'intégration. Dans tous les pays, si vous voulez, on se pose des questions qui sont des questions extrêmement complexes. Mais ce qui me frappe en France, c'est qu'on ne pose pas les questions et qu'on essaie bien souvent pas de les régler. Et je prenais tout à l'heure l'exemple du marché du travail. Quand vous allez en Autriche, par exemple, ou au Danemark, ce que me dit le personnel politique, c'est tout à fait extraordinaire ce qui se passe en France. C'est-à-dire que vous avez un chômage qui est très élevé et vous ne faites rien pour le résoudre. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui est tout à fait étonnant. Je prenais l'exemple de l'Angleterre. En Angleterre, vous avez depuis très longtemps un problème extrêmement grave de pauvreté. Hein. C'est-à-dire que même quand vous avez de la croissance, même quand vous commencez à vous approcher du plein emploi...
Même quand vous travaillez, même quand vous
Vous avez un problème de pauvreté, donc c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Mais, si vous voulez, les Anglais ont parfaitement identifié ce problème, et vous avez en ce moment une campagne électorale qui est très vigoureuse, hein, qui est très virile. Hein. L'Angleterre, c'est comme la France, hein. c'est très bipartisan, si vous voulez. Vous n'êtes pas dans un pays de consensus.
Hein. On aime le débat.
On aime les débats, et ce sont des débats qui parfois sont extrêmement violents, mais on parle beaucoup de la pauvreté, on parle beaucoup du système social, on parle beaucoup de l'éducation, avec des propositions qui sont extrêmement précises. Et je trouve que l'exception française, c'est vraiment ce refoulement, quoi. On a mis les mains devant nos yeux, et parfois, ça me rend malade, parce qu'on pourrait régler nos problèmes. La question du marché du travail, on sait la régler. D'autres pays l'ont fait, et je vous promets, parfois, ça me donne des crampes au ventre.
Alors, Yves Bertoncini, est-ce qu'il y a réellement des pays qui vont bien dans une zone euro déprimée? Est-ce qu'il y a un, voire plusieurs pays qui ont tout compris, et notamment de savoir ce qu'il faut faire pour éviter cette tendance dépressive?
La dépression française, elle est multiforme. Elle naît d'un malaise économique et social, chômage élevé depuis trop longtemps, sorte de malaise identitaire, hein, quel est le rôle de la France dans l'Europe et même dans la mondialisation. Elle est même liée maintenant à un malaise partisans, parce qu'il y en a deux grands partis de gouvernement, l'UMP et LPS, qui, aux dernières élections européennes, ont fait à eux deux un tiers des voix. Il n'y a qu'un seul pays où les deux grands partis de gouvernement avaient fait moins. C'est la Grèce. C'est pas très bon signe. Je crois qu'il y a un chiffre qui symbolise tout, c'est celui du chômage. Dans la même Europe, dans la même union monétaire, dans la même zone euro, vous avez des pays comme l'Allemagne qui ont moins de 5% de chômage. Les Pays-Bas, 6 à peu près. La France, plus de 10. Alors d'autres pays, l'Espagne, la Grèce, sont autour de 25. La France, l'an dernier, est l'un des seuls pays d'Europe où le chômage a progressé. Il n'y en a que 3, la France, l'Italie et la Finlande. Donc il y a un malaise qui prend ses sources d'abord en France. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions en France également. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand on constate ce que dit Nicolas Bouzou, ce qu'il écrit, on deviendrait pratiquement franco-sceptique. On se dit, est-ce que... quels que soient les avantages et les inconvénients de l'Europe, est-ce que la France, dans cette Europe-là, est enfin capable de s'attaquer à ces maux et au premier rang duquel le chômage de masse?
Stéphane De Vries, votre regard néerlandais sur cette France que vous connaissez bien?
Oui, bah, malheureusement, un regard très négatif, mais qui vient d'un profond amour pour ce pays. Parce que ce que je vois en France depuis 16 ans que j'habite ici, ça me désole, ça me rend très, très triste parce que je suis venu en France parce que j'adore profondément Paris. Et je vois un pays qui n'est pas capable de se soulever, de relever le défi, de trouver des réponses à des questions très simples. On a vu ça avec la mascarade de l'esprit du 11 janvier. À chaque fois, il y a des mots qui sont mis en avant, des concepts, des valeurs qui ne veulent rien dire parce que on est tellement obsédé par les mots, par les concepts philosophiques, qu'on oublie en fait les citoyens. On parle que des institutions, de la République, il faut les protéger, il faut apprendre ça à l'école avec plus d'autorité, il faut apprendre la Marseillaise. Plein de mesures complètement autoritaires, complètement débiles. Et en même temps, on fait rien parce que on parle beaucoup d'économie ici. On a Guillaume Duval qui est le rédacteur en chef d'Alternative Économique. C'est pas, pour moi, c'est pas une question d'économie. Pour moi, c'est une question de mentalité. Moi, je suis né dans un pays que j'aime pas trop, les Pays-Bas. Mais il y a une chose que j'aime beaucoup de ce pays, c'est en fait, on y apprend de se débrouiller. C'est un pays extrêmement pragmatique, qui n'a pas les mêmes bases philosophiques que la France. Bon, je dis toujours, la France est très philosophique, ça me plaît aussi, mais n'est pas du tout pragmatique. Donc, idéalement, mon pays idéal serait un mélange, ce serait la Belgique, en théorie.
C'est exactement ce que j'allais dire.
Mais dans les faits, c'est pas le cas. Mais en fait, il faut qu'on arrête de parler et qu'on commence à faire. Et en fait, ça commence à rendre confiance aux gens. Et ça commence à l'école maternelle. Et c'est pas les valeurs républicaines qu'il faut apprendre. Il faut apprendre les élèves d'avoir confiance en eux, d'être indépendants, autonomes et avoir confiance en l'avenir. Et c'est ça dont on parle jamais quand j'entends Najat Vallaud-Belkacem avec ses propositions pour réformer l'école.
De l'éducation.
Moi, ça me fait rire et pleurer en même fois. Ça me fait plus rire. C'est pas ça la solution. Il faut apprendre les Français que le monde n'est pas méchant, que l'avenir est plein d'espoir et, voilà, donc pour moi, c'est une question de mentalité.
Illustration de la difficulté à faire bouger les lignes, passe d'armes musclée du ministre de l'économie Emmanuel Macron, c'était mardi dernier à l'Assemblée nationale.
Ce qu'attendent de nous les Français, c'est que nous avancions. Parce que si la réponse, et en particulier la réponse de gauche, c'est ne plus rien faire, c'est considérer qu'avec 10% de chômeurs et 25% de chômage des jeunes, eh bien, tout est bien qui finit bien, madame la députée, alors ça n'est pas une réponse de gauche acceptable. Si vous pensez que notre justice prud'homale fonctionne bien et que vous n'avez pas compris en équilibre comment nous la réformions aujourd'hui, en transparence, ensemble, parce que c'était cela le texte que nous avons porté pendant des semaines, c'est cela le texte qui est devant vous aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas suivi. Nous avons renforcé les droits des salariés qui travaillent le dimanche, parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas de compensation dans de nombreuses zones. Et vous le savez, nous rendons une justice plus efficace et plus rapide. Et vous le savez, nous permettons à des Françaises et des Français qui ne peuvent se déplacer sur le territoire de le faire. Et vous le savez, nous proposons à des jeunes qui n'ont pas accès à des emplois de le faire. Et vous le savez aussi. Et finalement, vous retrouvez de part et d'autre une forme d'union. Ceux qui ne veulent pas changer le pays, ceux qui préfèrent dire que tout va bien, ceux qui préfèrent dire on ne fait pas assez parce que vous ne l'avez pas fait, nous ne voulons rien faire, mais nous avancerons.
Alors, qu'est-ce que les autres font et que les Français ne font pas ou n'arrivent pas à faire je poserai la question à Guillaume Duval et puis bien sûr à Nicolas Bouzou.
Oui, je crois qu'il faut pas exagérer non plus. Enfin, je veux dire, dans la crise, par exemple, la France a bien résisté. Alors, c'est très difficile pour tous les pays européens, mais l'économie française a mieux résisté que l'économie néerlandaise. L'économie française a mieux résisté. Si, absolument.
Non, pas du tout.
Absolument. Vous pouvez regarder les chiffres. C'est très clair. Sur le PIB, sur l'emploi, sur tout ce que vous voulez.
Pas du tout. Le PIB est plus élevé aux Pays-Bas qu'en France, parce que le PIB en France n'a pas augmenté depuis 2008.
Le PIB par habitant.
Oui, PIB par habitant.
Et alors, il a
augmenté, tout à fait. Il y a moins de chômage, absolument.
Ok. Sur les Pays-Bas, c'est très clair. Sur la Finlande, c'est encore plus clair. Effectivement, l'Allemagne s'en est moins mal sortie que la France, mais c'est vraiment parce que la France, la demande intérieure française a tenu, parce qu'on ne s'est pas engagé dans la course au moins-disant social qu'ont fait les autres pays d'Europe du Sud, etc., que l'euro a tenu, que l'Europe ne s'est pas effondrée. intérêts. Et par ailleurs, depuis 25 ans, on a créé deux fois plus d'emplois en France qu'en Allemagne, on a créé plus d'emplois en France qu'au Royaume-Uni, on a créé beaucoup plus d'emplois qu'en Italie ou qu'en Espagne. Simplement, c'est vrai qu'il y a un problème français, qui est peut-être une chance pour l'avenir si on réussit bien à le gérer, mais qui dans l'immédiat est un problème, c'est un dynamisme démographique que les autres pays d'Europe n'ont pas.
Et évidemment, l'Allemagne.
Et dans l'immédiat, ça pose effectivement des problèmes supplémentaires en termes d'emploi. Mais sinon, je suis beaucoup plus d'accord avec ce qu'a dit Stéphane De Vries qu'avec ce qu'a dit Nicolas Bouzou. Je crois pas que ce soit le problème de l'organisation du marché du travail qui soit notre problème. C'est plus facile de licencier en France qu'en Allemagne. C'est sans doute plus facile aussi de licencier en France qu'aux Pays-Bas.
Oui, ça c'est vrai. Absolument.
Je pense que le vrai problème en France, c'est d'abord effectivement un problème d'éducation, d'école. On a voulu pousser tous les jeunes vers davantage de diplômes, etc., mais en restant dans la logique ancienne, qui était une logique élitiste de sélection par l'échec de la petite élite qui ira dans les grandes écoles. Tant qu'on reste dans cette logique-là, mais c'est une logique qui est effectivement liée à la structure très élitiste, très féodal, qui est resté très profondément comme ça dans la société française, malgré la République, c'est parce que on fait ça que ça marche mal. Mais on a eu raison de pousser les gens à aller plus faire plus d'éducation, plus de diplômes, etc. Mais on l'a fait de façon, sans s'occuper vraiment de donner une bonne éducation à tous.
Et une ouverture sur le monde du travail. Nicolas Bouzou, alors je vous pose la question, qu'est-ce que les autres font et que les Français ne font pas ou mal?
Je vais répondre précisément, mais déjà le constat, prenez les chiffres d'Eurostat en 2014, dans les 28 pays de l'Union Européenne, vous en avez 10 dans lesquels le taux de chômage est inférieur à 7% de la population active. Donc c'est plus d'un tiers. Alors c'est pas le plein emploi, mais vous avez un certain nombre de pays qui sont au plein emploi. L'Autriche, dont on n'a pas parlé par exemple, est un pays qui est au plein emploi.
Sachant que le plein emploi, c'est autour de 5% de chômage. Hein.
Là c'est un peu moins de 5%.
Un petit peu moins de 5%. Pays-Bas c'est 2%.
Bon, donc, oui. Alors ouais. Quand je parle de l'Angleterre, on me dit « Ah oui, mais l'Angleterre c'est des méchants, ils mangent des enfants, etc. » Mais bon, là l'Autriche, ce n'est visiblement pas le cas. La difficulté de la France, c'est notre incapacité à mener des politiques qui soient basées sur ce que les anglo-saxons appellent des evidence-based policy. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les sciences sociales nous apportent une richesse absolument extraordinaire en termes de savoir. Et donc, on sait un certain nombre de réformes qu'il faut faire. On sait qu'il faut faire des réformes du marché du travail, et on sait en effet qu'il faut faire des réformes éducatives. D'ailleurs, je fais un clin d'œil à Guillaume Duval, c'est pas éducation ou marché du travail. On peut faire éducation et marché du travail. Je crois qu'il est complètement évident, si on considère qu'il n'y a pas de problème de marché du travail aujourd'hui, le taux de chômage structurel en France, il est compris entre 8 et 9%. Hein. C'est-à-dire que même si vous avez de la croissance, même si vous avez beaucoup de croissance, votre taux de chômage, il va buter sur un minimum de 8%. Donc ça n'est pas satisfaisant. Non. Donc il faut faire les deux. Mais dans ces domaines, on sait ce qu'il faut faire. Si vous voulez, c'est ça ce que l'on ne fait pas bien en France. Alors prenons le cas de l'éducation, très rapidement. Vous avez beaucoup de recherches sur les systèmes éducatifs dans le monde entier ces dernières années. Ce que l'on sait, c'est que ce qui compte en termes d'éducation, c'est la maternelle et la primaire. C'est-à-dire que c'est là que doivent être concentrés les moyens. La courbe financière dans le domaine de l'éducation, ça doit être une courbe en U. C'est-à-dire qu'il faut mettre de l'argent au début et de l'argent à la fin. Pour une raison que je vous l'avoue humblement, pour une fois je ne m'explique pas en France, on a une courbe en N, c'est-à-dire qu'on met beaucoup d'argent au collège et au lycée. Bon, je ne veux pas dire, parce que je ne veux pas vexer les professeurs de collège et de lycée qui nous écouteraient, mais disons que ce que montrent les études, c'est que c'est moins important. C'est une période de consolidation des savoirs, alors que la période de la maternelle et de la primaire, y compris et même de la crèche d'ailleurs, ce sont des périodes extrêmement importantes. Et donc il faut concentrer les moyens ici. Il faut des petites classes. On sait que le redoublement ne sert à rien. On sait en revanche que dès qu'on identifie des insuffisances chez certains élèves, il faut les inscrire dans des formules de tutorat. On sait que le bac ne sert à rien. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses que l'on sait. Et donc notre marge de progression du système éducatif en France, elle est absolument extraordinaire. Et ce que je vois, c'est que les autres le font. Les Suédois l'ont fait, les Britanniques l'ont fait, les Allemands, dans une moindre mesure, l'ont fait, si vous voulez. Et donc, comprenez bien que mon message, en réalité, c'est un message d'optimisme. C'est-à-dire que si on arrive en France à mener ce que j'appelais donc il y a quelques instants ces evidence-based policy, mais je vous promets que la France va redevenir le pays de la Dolce Vita prospère. Mais en revanche, si on ne fait rien, eh bien écoutez, on va continuer de s'enliser, et puis si certains trouvent que c'est bien, tant pis, hein, que je voulais vous dire.
Et on va revenir un peu dans la deuxième partie de l'émission sur un problème peut-être central de la France, qui est celui de la lucidité, qui est un mot que vous reprenez assez souvent dans votre livre, Nicolas Bouzou. On va faire une petite pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Le temps des infos, avant de retrouver nos invités et notre débat, faut-il changer l'Europe, faut-il changer la France? À tout de suite.
Spotkania europejskie.
Rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europy.
Stawrodromy tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bonsoir, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Faut-il changer l'Europe ou et faut-il changer aussi la France? Je vous représente rapidement nos invités. Guillaume Duval, rédacteur en chef du mensuel Alternative Économique et l'auteur de Marre de cette Europe-là, moi aussi aux éditions textuelles. Nicolas Bouzou, économiste, directeur d'Astérès et l'auteur de Pourquoi la lucidité habite à l'étranger chez Jean-Claude Lattès. Yves Bertoncini, directeur de l'Institut Jacques Delors et Stéphane De Vries, journaliste néerlandais et correspondant à Paris de RTL Paribas. En Europe, il y a des pays qui ont mené des réformes, il y a déjà de ça un petit moment, ceux qui y songent et puis ceux qui trouvent que la réforme des voisins est toujours moins douloureuse. Petit tour des pays qui réforment et des pays qui en parlent avec Marie Afonso.
Par exemple, la Suède dans les années 90, face à une dette publique considérable, l'État a mené une réforme d'envergure. Cette réforme a visé à accroître l'efficacité et la productivité des administrations. Une crise qui a été une opportunité, mais pas seulement, selon Allan Gustafsson, ancien haut fonctionnaire suédois ayant travaillé sur la réforme fiscale suédoise.
Il a fallu prendre des mesures court terme de réduire les dépenses publiques dans l'immédiat, mais aussi, et ça je trouve peut-être le plus important, de mettre en place des instruments pour donner un cadre à la gestion des finances publiques. Je pense que tout le monde est conscient que la situation n'était pas tenable.
Approche différente en Italie. Le président du Conseil veut changer son pays pour changer l'Europe. Matteo Renzi a lancé une réforme du travail pour relancer l'emploi. Pourtant, cette réforme est toujours source de tensions, comme le démontre le secrétaire général du syndicat de la métallurgie, Maurizio Landini.
Le vrai problème est que Renzi n'a pas obtenu le consentement des travailleurs et des demandeurs d'emploi. Donc, s'il veut changer ce pays, il doit composer avec les gens qui travaillent et avec les gens qui veulent vraiment du changement.
Quant au Royaume-Uni, il a toujours marqué sa différence. Pour David Cameron, il n'y a rien à changer en Grande-Bretagne. Par contre, c'est l'Union européenne qui doit s'adapter aux demandes du Royaume-Uni et il compte bien laisser le choix aux Britanniques. Bref, des Britanniques qui souhaitent choisir une Europe qui ressemble un peu plus à la Grande-Bretagne. Impression dans les rues de Londres.
Je pense que dans une démocratie, les gens devraient avoir le droit de répondre par oui ou non.
C'est bien, c'est très démocratique, mais il doit nous informer sur les avantages et les inconvénients de notre appartenance à l'Europe.
On a entendu tout à l'heure Nicolas Bouzou nous parler de la France. On entend là quelques Britanniques un peu saisis au hasard dans les rues de Londres. Est-ce que la lucidité est un mot très mal partagé en Europe, Yves Bertoncini?
Il n'y a pas seulement une question de lucidité dont nous discutons, c'est une question de volonté. Je ne dirais pas que les Français, notamment les élites politiques, syndicales et autres, ne sont pas lucides. Je pense que globalement, il y a des diagnostics plutôt partagés, il y a même des instances pour faire des diagnostics partagés. Simplement, quand on en arrive à la prise de décision, il y a souvent une absence de volonté, parce que, et sans doute les épisodes liés à la loi Macron l'illustrent encore une fois, parce qu'on a un système politique en France, et ça c'est une exception en Europe, qui donne tous les pouvoirs à une personne, élection présidentielle, une personne, qui pense à se représenter à l'instant même où il a mis les pieds à l'Élysée, et donc ça crée une sorte de système politique où tout est organisé en vue de la prochaine élection présidentielle et où tous les choix sont faits à cette aune-là. Et ça, ce n'est pas un problème de lucidité, c'est un problème d'absence de volonté ou en tout cas de volonté limitée par les impératifs liés aux campagnes présidentielles.
Stéphane Neuvris, lorsque les Néerlandais sont au pied du mur, ils arrivent plus facilement que nous les Français à sauter l'obstacle grâce à leur système politique, grâce à leur pragmatisme.
Oui, je crois. Aux Pays-Bas et aussi en Allemagne, au Benelux, dans les pays scandinaves, de manière générale, il y a un système qui est profondément parlementaire. Si le gouvernement fait quelque chose qui ne plaît pas au Parlement, le gouvernement saute. Aux Pays-Bas, ça a mené à une situation qui est maintenant la situation politique la plus instable de l'Europe, malheureusement. Des Français pourraient dire que ça ressemble un peu à la 4e République.
Oui, parce que ce sont toujours des gouvernements de coalition et c'est difficile de trouver les coalitions parfois.
Et par ailleurs, la coalition, c'est presque la norme en Europe. Même quand on regarde la Grande-Bretagne actuellement, qui avant était un pays bipartisan, a maintenant une coalition. Et probablement, avec les prochaines élections, il y aura une nouvelle coalition. Donc, tous les pays qui fonctionnent plus ou moins correctement, en tout cas d'un point de vue politique, sont des coalitions. Et il y a aussi des voix en France qui disent il faut peut-être instaurer une coalition, enfin un système un peu plus parlementaire. Mais encore une fois, ça reste que des mots. Parce que finalement, si on veut vraiment réformer le système, les hommes politiques n'aiment pas du tout ça, parce que ça veut dire qu'ils vont perdre leur emploi. Et comme en France, être un homme politique, c'est un vrai métier, ils savent rien faire d'autre. Donc ils vont perdre leur emploi. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pointer au Pôle emploi, comme la majorité des Français actuellement. Donc c'est extrêmement difficile de changer le système de l'intérieur. On parle beaucoup, mais on fait pas grand-chose. Il est aussi pas le système est tellement difficile, par exemple, pour un nouveau parti de rentrer au Parlement, que c'est même pas la peine de penser à commencer un nouveau parti politique.
Alors, Stéphane, ce que vous êtes un peu en train de dire, c'est qu'il faudrait entamer une psychanalyse du pays, allonger tous les Français sur le divan.
C'est non,
un peu
ça on fait assez, on fait que parler. Il faut agir maintenant. Il faut se lever du banc du psy. Et en plus, ça va encore aggraver le trou de la sécu si on va toucher les psychanalystes.
Guillaume, on va laisser un peu de côté les Français. Marre de cette Europe-là, vous dites, mais marre de quoi, Guillaume Duval?
D'une Europe marché qui dresse les Européens les uns contre les autres, en particulier sur le plan social et sur le plan fiscal. Mais en plus, c'est un système qui est très défavorable aux grands pays. C'est-à-dire que quand un petit pays fait du dumping fiscal ou du dumping social, il peut assez facilement, finalement, exporter suffisamment chez les autres pour que ça compense ce qu'il perd chez lui en serrant la ceinture. Et il peut aussi attirer suffisamment de riches et d'entreprises chez lui pour que ses rentrées fiscales augmentent. Hein, c'est ce que font le Luxembourg, l'Irlande, etc.
Évidemment, quand le Luxembourg dit on a des avantages fiscaux pour les entreprises, ont toutes les chances de faire venir un millier d'entreprises.
Suffisamment d'entreprises pour que leur rentrée fiscale augmente.
Voilà, alors qu'il y a 10 ou 15 entreprises luxembourgeoises qui vont payer moins d'impôts, donc ça compense.
Voilà. Et quand un grand pays est obligé de les suivre pour faire ça, ça ne marche pas. Donc c'est normal que dans l'Europe, les grands pays soient en difficulté que les petits.
Mais c'est tout le monde fait la même chose, tout le monde y finit par y perdre.
Oui, enfin, de toute façon, on y perd tous si on fait ça. Mais la difficulté politique, c'est qu'on est dans un système politique où les petits pays pèsent très lourd, et un commissaire, un pays, ils sont surreprésentés au Parlement européen, etc., etc. Et ça bloque les changements qui seraient nécessaires, en particulier pour limiter le dumping social et le dumping fiscal en Europe. Donc c'est de ça dont j'ai marre, mais je pense que ça peut changer. Ça peut changer en particulier parce que on a retrouvé des ennemis. Je pense qu'une partie du problème qu'on a eu depuis 4 ans, c'est que l'Allemagne pensait qu'elle pouvait s'en sortir toute seule, même si ça continuait à aller mal dans le reste de l'Europe, parce qu'elle vendrait toujours des machines et des grosses voitures aux Brésiliens, aux Chinois, etc., etc. Bon, là, les Chinois, c'est un peu fini. Et en plus, M. Poutine est en train de rappeler à nos amis allemands que s'il n'y a pas une Europe solide politiquement, économiquement autour d'eux, ils ont quand même des difficultés. C'est pas sûr qu'ils s'en sortiront tout seuls. Donc là, je pense que ça peut aider à ce qu'on sorte de cette situation défavorable en Europe.
Nicolas Bouzou, on est allé trop loin dans la libéralisation du marché, ce qui est un peu en train de dire Guillaume Duval.
Sur ce point, j'ai une différence d'appréciation assez importante avec Guillaume Duval. Je pense que le principal sujet, c'est celui du fédéralisme. Je crois que le sujet numéro un, c'est celui de la zone euro, c'est celui de la pérennité de la zone euro, et c'est le fait que si nous avons demain, ce qui est tout à fait possible, une crise assez similaire à celle qui s'est produite ces dernières années, la zone euro n'y survivra pas. Et donc, vous avez derrière ça une question qui est liée à une question profondément démocratique et politique, qui est, au fond, est-ce que l'on est capable aujourd'hui de mettre au sein de la zone euro des ressources en commun, ce qui pose des questions de fiscalité européenne, de budget européen, de démocratie européenne, pour faire en sorte que quand un pays est en difficulté, dans une zone monétaire, pardonnez-moi de jargonner un tout petit peu, qui n'est pas optimale, c'est-à-dire dans une zone monétaire dans laquelle les gens ne se déplacent pas complètement facilement, il faut qu'on ait des mécanismes de péréquation. Et à mon avis, le grand sujet, c'est celui-ci. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, on est capable d'expliquer, de convaincre les opinions publiques que nous avons besoin de cette zone euro qui soit fédérale. L'Union européenne est quand même un problème secondaire et je vais pousser la provocation un peu plus loin. Le Royaume-Uni, bon, il se trouve que je pense que David Cameron va gagner les élections, je pense qu'il va faire son référendum et je pense que les Britanniques vont choisir de sortir de l'Union européenne. Dont acte. Enfin, je veux dire, on restera amis avec les Britanniques, de la même façon qu'on est amis avec les Suisses. Les 80% des normes européennes sont appliquées en Suisse.
Et qu'on s'entend bien avec les Norvégiens.
Oui, mais bien sûr, bien sûr. Moi, mon vrai problème, si vous voulez, ce qui m'inquiète, c'est vraiment l'avenir de la zone euro.
Alors, Yves Bertoncini, l'avenir de la zone euro qui préoccupe Nicolas Bouzou, et pas seulement Nicolas Bouzou, on peut dire en même temps qu'elle a énormément changé. Il s'est passé des tas de choses concernant la zone euro pendant la crise.
En effet,
qui la renforce et qui sont des éléments de changement de cette Europe.
Des éléments de changement d'ailleurs qui vont plutôt dans le sens de ce que souhaitaient les autorités françaises et au-delà des autorités françaises, les Français en général, davantage de solidarité, davantage d'organisation politique, l'union bancaire, le mécanisme européen de stabilité, l'aide à des pays en difficulté qui étaient pas prévus, hein, qui étaient même exclus. Alors évidemment avec des contreparties hein, qui étaient douloureuses. Cette Europe FMI, tout le monde peut en avoir marre. Certaines manières, ceux qui pensent que c'est trop d'austérité, mais aussi, ne les oublions pas, ceux qui pensent que c'est trop de solidarité, parce qu'il y en Allemagne et dans le nord de l'Europe. La bonne nouvelle, c'est qu'on va en sortir. C'était une parenthèse de la construction européenne, l'Europe FMI. Bon. Alors ensuite, il reste le reste. C'est quoi le reste? C'est une fédération d'États-nations, selon l'expression de Jacques Delors, des éléments fédéraux qu'on peut effectivement renforcer encore dans le cadre de la zone euro, des fonds d'aide aux réformes, des fonds de stabilisation cyclique. On a fait plein de propositions là-dessus. Et puis des éléments fédéraux parce que l'union fait la force et qu'aujourd'hui, les grands défis, ce sont des défis internationaux. Guillaume Duval a cité Vladimir Poutine, on pourrait citer Daesh, etc. Mais c'est une fédération d'États-nations. Les États-nations sont unis dans la diversité. C'est à eux de prendre les grandes décisions importantes en matière d'éducation, de recherche, de règles du marché du travail, de protection sociale, de fiscalité. On peut à la fois être d'accord avec Guillaume Duval quand il dit qu'il y a un peu trop de concurrence sociale et fiscale en Europe, oui, et donc il faudrait davantage de coopération. Mais en même temps, s'il y a cette concurrence, ça montre bien que les compétences sont nationales. En matière d'éducation, elles sont même régionales dans certains pays. Donc il faut que chaque pays, et la France pour ce qui nous concerne, prennent ses responsabilités, fassent des choix qui lui permettent à l'intérieur de cette zone euro et de cette Union européenne et de cette mondialisation, n'oublions pas ce contexte-là, de davantage tirer son épingle du jeu. Ce qui frappe, c'est que la France peine, bute depuis de très nombreuses années sur ses problèmes structurels, alors que d'autres pays ont fini par arriver à trouver une voie qui leur permette d'être efficaces économiquement et socialement à peu près juste.
Carrefour de l'Europe sur RFI.
Carrefour de l'Europe, faut-il changer l'Europe? Où et faut-il changer aussi la France? Nous sommes avec Guillaume Duval, rédacteur en chef du mensuel L'Alternative économique et l'auteur de Marre de cette Europe-là. Nicolas Bouzou, économiste et l'auteur de Pourquoi la lucidité habite à l'étranger. Yves Bertoncini, directeur de l'Institut Jacques Delors. Et Stéphane De Vries, journaliste néerlandais, correspondant à Paris de RTL Paribas. Dans cette Europe un peu effervescente qui vote tout le temps, il y a eu des élections en Grèce avec un nouveau venu sur la scène, Alexis Tsipras, qui bouscule un petit peu le jeu européen. Est-ce qu'il y a un effet Tsipras qui aiderait peut-être pas à redistribuer les cartes, mais en tout cas à regarder un petit peu la façon dont elles sont organisées? Qui veut rebondir, Guillaume Duval?
Enfin, la question, c'est de savoir est-ce que l'élection de Syriza en Grèce va permettre de reposer la question que soulevait Yves Bertoncini tout à l'heure, ou aussi Nicolas Bouzou, de l'organisation de la zone euro pour aller au-delà d'une simple Europe FMI, pour être un vrai espace de solidarité qui soit géré politiquement et surtout géré démocratiquement. Je pense que ce qui a poussé Syriza en Grèce, c'est l'impression d'avoir été mis sous une politique inefficace d'une part, et d'autre part qui n'est pas contrôlée démocratiquement. Donc la Troïka, c'était une forme d'imposition, de mise sous tutelle des pays, sans aucun contrôle parlementaire derrière, d'aucune nature. Donc ça, c'est inacceptable pour les Grecs, mais je pense que c'est aussi inacceptable pour les Allemands en particulier, où la question de la démocratie en Europe est pour eux vraiment une question centrale. Quand le tribunal constitutionnel, le cas dit on ne peut pas transférer tel ou tel élément de souveraineté en Europe, c'est toujours au nom de la question démocratique, et je crois que c'est une vraie question pour les Allemands, c'est pas simplement pour ne pas payer, etc., c'est parce qu'ils ont eu des gros problèmes avec la démocratie dans le passé, qu'ils y tiennent beaucoup, donc je crois que l'élection grecque peut être l'occasion en particulier de poser la question de la démocratisation de la gestion de la zone euro, dans le contexte en particulier des aides et des difficultés des pays les uns et les autres. On avait fait l'an dernier avec Thomas Piketty et quelques autres, un appel pour dire, c'est le moment de dire en particulier qu'il faut un Parlement zone euro. Je pense que on a fait beaucoup de choses, c'est vrai, mais ce qu'on n'a pas fait jusqu'ici, c'est démocratiser la gestion de la zone euro. L'élection grecque peut être l'occasion d'avancer sur ce terrain. Je regrette en tout cas beaucoup pour ma part que l'exécutif français, le président français, ne se soit pas emparé de ces questions jusqu'ici et botté en touche en permanence sur ces questions européenne et en particulier dans le cas de la crise grecque jusqu'ici.
Nicolas Bouzou, Alexis Tsipras n'était pas votre candidat a priori. Si vous aviez, si vous étiez grec, vous n'auriez pas voté Alexis Tsipras.
Non.
Mais il est là. Est-ce qu'il va y avoir un effet Tsipras ou pas?
Écoutez, pour l'instant, cet effet est plutôt négatif, parce qu'en réalité, on a plutôt l'impression que les positions des uns et des autres se tendent en Europe. Si vous voulez. Moi, mon argument, c'était de dire, vous avez un problème de la dette grecque, qui se serait posé de toute façon, quel que soit le gouvernement, même si vous aviez eu un gouvernement de centre-droit ou de centre-gauche, de toute façon, cette dette, elle est irremboursable dans l'État. Donc il faut bien trouver un espace de négociation. Et d'ailleurs, l'idée de Syriza, qui consiste à dire on pourrait indexer une partie des remboursements sur la croissance nominale, c'est-à-dire sur la croissance économique et sur l'inflation, me paraît tout à fait astucieuse et tout à fait justifié, mais je pense qu'un autre gouvernement aurait pu l'apporter, d'autant plus que la Grèce a fait énormément d'efforts ces dernières années. Je suis toujours un petit peu agacé quand j'entends dire que les Grecs n'ont rien fait. Les recettes fiscales sont à un plus haut historique, hein, 36% du PIB, on est quasiment dans la norme des pays de l'OCDE.
J'ai lu, Nicolas Bouzou, que 76 milliards d'euros étaient attendus dans les caisses fiscales grecques et qu'elles traînaient, on n'arrivait pas à les récupérer.
Oui, mais si vous voulez, l'ajustement macroéconomique a été absolument colossal, et donc je pense qu'on ne peut pas demander plus aux Grecs. Et donc l'idée selon laquelle, de toute façon, on ne peut pas demander à un peuple maintenant de ne pas réinvestir dans l'éducation ou de la santé toutes ces ressources qui sont dégagées, mais de les utiliser simplement à rembourser une dette, me paraît complètement intenable. Donc là, je trouve que le débat est tout à fait justifié. Maintenant, très honnêtement, de toute façon, cette question se serait posée d'une façon ou d'une autre, et il faudra bien qu'on la règle, et qu'on apprenne à la régler, y compris pour d'autres pays, parce que le problème va se reposer de façon un peu moins importante, mais il va se reposer quand même au Portugal, en Espagne, etc. Et donc là, en effet, le bon sujet, c'est celui de l'organisation européenne, mais enfin, qu'on peut traiter entre personnes modérées.
Yves Bertoncini, vous voulez réagir?
Oui, je crois que c'est un cas d'école, la Grèce. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un pays qui avait fait faillite, parce qu'il a été mal géré pendant 40 ans.
Parce qu'il dépensait plus qu'il ne gagnait.
Dont il faut sortir aujourd'hui, c'est de la Grèce des 40 dernières années. Pas seulement des 4 dernières années, des 40 dernières années. Il y a là-dessus un plein accord entre les autorités européennes et Alexis Tsipras. La lutte contre la corruption, la lutte contre le népotisme, la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale, le renforcement de l'État. L'État-nation grec. Voilà. Alors, on a un non-État nationaliste plutôt qu'un État-nation en Grèce. C'est ça le problème. Alexis Tsipras veut essayer de changer cela. Il aura le plein appui des autorités européennes et internationales pour faire cela. L'autre élément de base, c'est que Alexis Tsipras est eurosceptique, mais il veut pas sortir de la zone euro. Les Grecs, dans leur grande majorité, ne veulent pas sortir de la zone euro. Ça illustre bien ce que je disais précédemment sur l'union fait la force. L'union monétaire fait la force dans la mondialisation. Parce que c'est quoi sinon l'alternative? L'alternative, c'est la drachme livrée au grand vent de la spéculation financière internationale. Les Grecs n'en veulent pas, les Français ne veulent pas du franc non plus, et les Allemands ne veulent pas plus du Deutschmark. Donc ça montre qu'il y a des fondamentaux autour desquels les Européens peuvent se rassembler. Maintenant, ce qui reste à faire en Grèce, c'est arriver à sortir des 4 dernières années. Parce qu'effectivement, les Grecs en ont marre et on les comprend, même si des choses ont été faites qui ne seront pas mises en cause par M. Tsipras. Il va, lui, apporter des nouveautés, hein, parce que Tsipras n'est pas Samaras, donc il faut bien qu'il apporte des nouveautés. Et autour de ça, normalement, il y aura une rupture dans la continuité qui permettra à la Grèce de se redresser et à l'union monétaire de perdurer et même de s'approfondir, parce que, comme l'a dit Guillaume Duval, c'est nécessaire au cours des prochaines années.
Alors, Berlin, à travers Angela Merkel, disait qu'une extension de l'aide à la Grèce était indissociable de la réalisation des réformes, et on voit bien qu'il y a des réformes à deux niveaux. Il y a des réformes un peu structurelles, la création, j'ose pas me dire, la recréation d'un État, la création d'un État grec, parce qu'il a jamais vraiment existé, puis en même temps, c'est quand même cet ajustement, il y a ce problème de dette qui est à court terme. Donc,
Dette qui est pas loin d'être insoutenable, et donc dès qu'on parle plus d'annulation de dette, parce que c'est quand même des contribuables européens qui ont aidé la Grèce, c'était pas prévu, certains n'ont pas du tout aimé, c'était plus naturel en France, mais il y a des pays où ils n'ont pas du tout aimé faire ça.
En France, personne n'a été conscient que la France a dû emprunter 40 milliards pour les prêter aux Grecs.
Voilà, et donc il y a quand même la nécessité de respecter toutes les démocraties nationales et tous les contribuables, je dirais. D'autant plus en Grèce, où les contribuables ne sont pas exemplaires, hein, je crois. Mais une fois qu'on a dit ça, on réaménagera les conditions de remboursement de la dette grecque un peu plus tardivement, avec des taux un peu plus bas. Mais ça, c'est de la technique. Ce qu'il faut, c'est simplement qu'au préalable, les réformes engagées par Alexis Tsipras le soient dans une direction qui ne mette pas tout par terre. C'est-à-dire que, évidemment, qu'il est porteur de réformes bienvenues, d'actions nouvelles. Sinon, ça servirait à quoi que les Grecs aient voté pour lui. Et en même temps, il faut le soutenir dans les actions consensuelles tout ça rentre dans un cadre qui permette à la solidarité européenne qu'Alexis Tsipras a sollicité de continuer à s'exercer. J'ai bon espoir que ça se produise au cours des prochains jours. Oui.
Alors Guillaume Duval évoquait il y a quelques instants cette Europe avec un déficit démocratique. Il a évoqué l'idée d'un parlement de la zone euro. Il existe aujourd'hui un parlement européen au niveau des 28 pays, mais il n'existe pas d'un parlement de la zone euro au niveau des 19 pays concernés. Est-ce que cette Europe a compris ce déficit démocratique? Il est perçu aussi aux Pays-Bas. Il y a aussi aux Pays-Bas des pays extrêmes. Des partis extrêmes, pardon.
Oui, mais je pense que c'est un faux problème parce que tous ceux qui décident aujourd'hui dans la zone euro ou dans l'Europe, ils ont été élus. Donc il n'y a pas un déficit démocratique parce que qu'est-ce que ça veut dire un déficit démocratique? Ça veut dire qu'on n'est pas d'accord avec chaque décision. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, quand il y a une décision qui sera prise, il faut voter. Moi, personnellement, je vois pas le problème parce que techniquement, on pourrait faire des référendums tous les matins. Tous les matins, on fait 3 questions sur Internet.
C'est un peu ce que font les Suisses.
Oui, peut-être. Mais donc, on peut avoir une démocratie directe. Mais le déficit démocratique, moi, je trouve pas. Moi, je pense qu'il y a aucune région dans le monde qui est plus démocratique que l'Union européenne. Sauf que il y a une perception d'un déficit démocratique. Et peut-être la perception est plus importante que la réalité. C'est souvent le cas en politique. Qu'est-ce que les citoyens européens souhaiteraient? Est-ce qu'ils veulent voter aussi pour le ministre de l'économie de la Suisse, de la Suède, quand tu habites en Espagne? Moi, je suis pour. C'est quand même aberrant que l'on puisse pas voter pour des vraies listes européennes, parce que actuellement, quand on vote pour le Parlement européen, c'est très joli. Mais finalement, ce sont 28 élections régionales. On vote des députés de sa circonscription. Quand on vote en France, on vote pour des députés français. On peut pas voter pour un député tchèque. Donc, ça sont plein de choses qu'il y a des hommes politiques qui aimeraient changer ça. Mais le problème, c'est que les États-nations n'ont aucune envie de céder à une plus grande fédéralisation de l'Union européenne. Donc, si nos propres gouvernants n'ont pas envie, on va pas très loin.
On est en train d'expliquer que l'Europe pourrait changer, mais aussi qu'elle a changé, notamment dans tout ce qui concerne la zone euro, avec un mécanisme européen de stabilité, avec une banque centrale européenne beaucoup plus dynamique, beaucoup plus offensive. Guillaume Duval, les prochaines étapes, quelles doivent être les prochaines étapes? Harmonisation fiscale, lutte contre l'évasion fiscale. Il y a des choses qui sont quand même lancées. L'évasion fiscale, ça va devenir de plus en plus difficile. Par exemple.
Oui, enfin sur la fiscalité, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais c'est vrai que ce qui était très impressionnant jusqu'ici, c'est que les Européens disaient en gros le problème, ça a été vraiment les déficits publics, etc. Ils n'ont rien fait jusqu'à ces derniers mois sur la question de l'harmonisation fiscale et de la lutte contre la fraude fiscale. C'est les Américains qui en fait ont débloqué le dossier en mettant le pied dans la fourmilière suisse. Mais pourquoi la question démocratique est très importante? C'est parce que on est toujours dans une logique de règles, c'est-à-dire que comme on a pas décidé de décider au niveau européen des politiques discrétionnaires, on a établi des règles et on a encore renforcé ces règles. Je crois que le vrai problème de la zone euro, c'est que on est tellement intégré économiquement et aujourd'hui qu'on ne peut plus en rester à une logique de règles. Il faut qu'on trouve les moyens de décider ensemble. Et c'est à ce niveau-là que se pose pour moi la question démocratique, c'est-à-dire décider de manière discrétionnaire au niveau européen. Je ne crois pas qu'on ait les outils aujourd'hui pour que ce soit acceptable pour les peuples. Il faut s'en doter. Je pense que ça concerne en particulier, puisque vous évoquez la question, ça concerne des politiques communes. On a bien vu, par exemple...
Énergétique, industrielle.
Ouais.
On n'aura pas le temps de les évoquer.
Sur l'industrie, c'est très net, si vous voulez. Sur les histoires d'Internet... l'Europe est écrabouillée par les entreprises américaines, les Allemands, l'industrie allemande est nettement plus solide que l'industrie française, mais ils vendent quand même la même chose qu'au début du XXe siècle, des voitures et des grosses machines. En matière d'Internet, on a tous loupé le virage parce qu'on n'a pas de politique industrielle commune. Il faut que ça change.
C'est aussi un des chapitres de votre livre, Nicolas Bouzou. Entre vous, Nicolas Bouzou et Guillaume Duval, quand même un point commun, c'est qu'il semble que vous soyez très optimiste au bout du compte et très confiant dans la l'avenir de l'Europe. Nicolas Bouzou, d'un mot, mais vraiment d'un mot.
Oui, mais je considère que les potentialités n'ont jamais été aussi importantes qu'aujourd'hui. Et l'Europe est le seul continent du monde dans lequel vous avez un vrai savoir-faire technologique et dans lequel vous avez une éthique et une morale. Vous ne retrouvez ça nulle part ailleurs. Et donc je pense que l'Europe peut vraiment redevenir ce qu'elle était à la fin du 19e siècle, quoi. C'est-à-dire vraiment le pôle de croissance du monde. C'est à notre portée.
D'un mot, mais vraiment d'un mot, Yves Antoncini, confiance dans l'Europe, le directeur de l'Institut Jacques Delors, a priori.
Oui, oui. Moi je ne suis ni franco-sceptique, ni eurosceptique. Je crois que l'Europe a d'immenses atouts, la France également, que les deux sont porteurs d'une sorte de modèle de conciliation de l'efficacité économique, la cohésion sociale, la protection de l'environnement dans un cadre pluraliste. Simplement, il faut que les résultats économiques et sociaux, notamment environnementaux, soient à la hauteur de ce modèle. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas, en tout cas en France. Ce n'est pas encore tout à fait le cas non plus en Europe, selon les pays que l'on regarde. La chose la plus facile à faire, si je puis dire, c'est d'agir au sein des États-nations, parce que ça, c'est dans la main des citoyens et des gouvernements. En Europe, c'est toujours un peu plus difficile, parce qu'il faut mettre d'accord 28 démocraties nationales, et c'est plus difficile.
Et 19 quand il s'agit de la zone euro. Exactement. Merci à tous les quatre d'avoir été au carrefour de l'Europe. Je rappelle le titre de vos livres. Marre de cette Europe-là, moi aussi, Guillaume Duval, édition textuelle. Nicolas Bouzou, Pourquoi la lucidité habite à l'étranger, édition Jean-Claude Lattès. Réalisation de cette émission, Guillaume Munier. Pour réécouter Carrefour de l'Europe, RFI.fr, sur la page de l'émission Carrefour de l'Europe, ou encore les applis gratuites tablettes et smartphones de RFI. Les références de nos invités, bien sûr, c'est sur la page de l'émission. On reste en contact via les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Daniel Lesesquelles, où que vous soyez, en Europe, en Afrique ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.